Louis-Auguste Blanqui. Avis au peuple. Toast du 25 février 1851. Toast envoyé par Blanqui de Belle-Île à Londres. En réponse à une demande de toast pour le banquet du 25 février 1851, anniversaire de la Révolution de 1848. Voici l'histoire de ce toast conté par Engels. Barthélemy, se disant blanquiste, persuada Blanqui d'envoyer un toast au banquet. Mais il ne reçut qu'une attaque magnifique contre le gouvernement provisoire. Louis Blanc et compagnie, entre autres. Barthélemy, stupéfié, remit le document, et il fut décidé de ne pas le publier. Nous traduisîmes le toast en allemand et le diffusâmes en Allemagne et en Angleterre. Ce toast, publié d'abord en tract par les Amis de l'Égalité, fut ensuite repris par la Patrie le 27 février 1851. Blanqui s'explique longuement sur l'origine et l'utilisation de ce texte dans une lettre. Quel écueil menace la Révolution de demain? L'écueil où s'est brisée celle d'hier, la déplorable popularité de bourgeois déguisés en tribuns. Ledru Rollin, Louis Blanc, Crémieux, Marie, Lamartine, Garnier-Paget, Dupont, Flocon, Albert, Arago, Marast. Ledru Rollin, Louis Blanc, Crémieux, etc. sont membres du gouvernement provisoire au début de la Révolution de 1848. Liste funèbre. Nom sinistre écrit en caractères sanglants sur tous les pavés de l'Europe démocratique. C'est le gouvernement provisoire qui a tué la Révolution. C'est sur sa tête que doit retomber la responsabilité de tous les désastres, le sang de tant de milliers de victimes. La réaction n'a fait que son métier en égorgeant la démocratie. Le crime est aux traîtres que le peuple confiant avait accepté pour guide et qui ont livré le peuple à la réaction. Misérable gouvernement, malgré les cris, les prières, il lance l'impôt de 45 centimes qui soulève les campagnes désespérées. Impôt de 45 centimes, par un décret du 16 mars 1848, le gouvernement provisoire augmenta de 45 centimes par franc les quatre impôts directs qui pesaient surtout sur les paysans. Cette augmentation suscita un vif mécontentement dans les camps. Cette augmentation suscita un vif mécontentement dans les campagnes. Fin de note. Il maintient les états-majors royalistes, la magistrature royaliste, les lois royalistes. Trahison. Il coursus aux ouvriers de Paris le 16 avril, il emprisonne ceux de Limoges, il mitraille ceux de Rouen le 27, il déchaîne tous leurs bureaux, il déchaîne tous leurs bourreaux, il berne et traque tous les sincères républicains. Trahison. À lui seul le fardeau terrible de toutes les calamités qui ont presque... À lui seul le fardeau terrible de toutes les calamités qui ont presque anéanti la Révolution. Oh, ce sont là de grands coupables, et entre tous, les plus coupables. Ceux en qui le peuple, trompé par des phrases de tribun, voyait son épée et son bouclier, ce qu'il proclamait avec enthousiasme arbitre de son avenir. Malheur à nous si, au jour du prochain triomphe populaire, l'indulgence oublieuse des masses laissait remonter au pouvoir un de ces hommes qui ont forfait à leur mandat. Une seconde fois, ça serait fait de la Révolution. Que les travailleurs aient sans cesse devant leurs yeux cette liste de non-mandats, et si un seul, oui, un seul apparaissait jamais dans un gouvernement sorti de l'insurrection, qu'ils crient tous d'une voix « Trahison !» Discours, sermons, programmes ne seraient encore que piperies et mensonges. Les mêmes jongleurs ne reviendraient que pour exécuter le même tour avec la même gypsière. Ils formeraient le premier anneau d'une chaîne nouvelle de réactions plus furieuses. Sur eux, anathème et vengeance, s'ils osaient réapparaître. Honte et pitié sur la foule imbécile qui retomberait dans leur filet. Ce n'est pas assez que les escamoteurs de février soient à jamais repoussés de l'hôtel de ville. Il faut se prémunir contre de nouveaux traîtres. Traîtres seraient les gouvernants qui, élevés sur le pavois prolétaire, ne ferait pas opérer, à l'instant même, premièrement, le désarmement général des gardes bourgeoises, deuxièmement, l'armement et l'organisation en milice nationale de tous les ouvriers. Sans doute il est bien d'autres mesures indispensables, mais elles sortiront naturellement de ce premier acte, qui est la garantie préalable, l'unique gage de sécurité pour le peuple. Il ne doit pas rester un fusil aux mains de la bourgeoisie. Hors de là, point de salut. Les doctrines diverses qui se disputent aujourd'hui les sympathies des masses pourront un jour réaliser leurs promesses d'amélioration et de bien-être, mais à la condition de ne pas abandonner la proie pour l'ombre. Elle n'aboutirait qu'à un lamentable avortement, si le peuple, dans un engouement excessif pour les théories, négligeait le seul élément pratique assuré, la force. Les armes et l'organisation, voilà l'élément décisif du progrès, le moyen sérieux d'en finir avec la misère. Qui a du fer, a du pain. On se prosterne devant les baïonnettes, on balaie les cohues des armées. La France hérissée de travailleurs en armes, c'est l'avènement du socialisme. En présence des prolétaires armés, obstacle, résistance, impossibilité, tout disparaîtra. Mais pour les prolétaires, qui se laissent amuser par des promenades ridicules dans les rues, par des plantations d'arbres de liberté, par des phrases sonores d'avocats, il y aura de l'eau bénite d'abord, des injures ensuite, enfin de la mitraille, de la misère toujours. Que le peuple choisisse. Prison de Belle-Île-en-Mer, 10 février 1851.